Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.
Bonsoir et merci Hervé Gardette. En effet, dans quelques minutes, le rendez-vous, émission Comédie sociale et roman de vie ce soir, avec la comédienne Corinne Maziero et la romancière Juliette Kahn. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Et parce que vous écoutez France Culture, il est bien 19h. Michel Ponge, bonsoir.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous. Il y a eu des incidents et nous ne devons ni les amplifier ni les sous-estimer. À l'occasion de ses vœux au monde éducatif, François Hollande est revenu sur le non-respect de la minute de silence en mémoire des victimes des attentats dans de nombreux établissements scolaires. Il promet qu'à l'avenir, aucun incident ne sera laissé sans suite. Tout problème sera signalé au chef d'établissement. Autre annonce de François Hollande, l'autorité des enseignants sera restaurée et renforcée. Le 9 décembre deviendra la journée de la laïcité à l'école et des groupes de volontaires verront le jour dans chaque académie pour du soutien et éviter les dérives. Plus de moyens aussi pour lutter contre le terrorisme. Moins de postes seront donc supprimés dans l'armée. 1500 sauvés dès cette année. 7500 en 4 ans. Nous commenterons cette annonce avec notre invité, le général Vincent Desportes, dans le journal de 22h. Et puis aussi des mesures exceptionnelles à la hauteur des menaces pour mieux suivre les 3000 personnes concernées par le djihad. Manuel Valls a promis ce matin près de 2700 emplois supplémentaires, notamment dans le renseignement, pour s'attaquer à la radicalisation. Le Premier ministre confirme la création de quartiers spécifiques dans les prisons et le renfort d'aumôniers musulmans. Un fichier spécial des personnes condamnées pour terrorisme sera aussi mis en place. La Commission européenne, elle, se dit prête à modifier sa proposition pour le fichier des passagers, le fameux PNR, afin de convaincre le Parlement européen de l'adopter. Les députés de Bruxelles bloquent l'adoption de ce texte depuis 2011 en estimant qu'il ne protège pas assez les libertés individuelles. La France, elle, mettra en place le dispositif à son niveau dès le mois de septembre. Deux semaines après les attentats, l'enquête sur d'éventuelles complicités progresse. 4 hommes ont été mis en examen et écroués aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à Hamedi Coulibaly. La justice les poursuit pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Les patrons des chauffeurs routiers refusent de revenir à la table des discussions. Ils ne participeront pas demain matin aux nouvelles négociations salariales prévues avec les syndicats. Les organisations patronales dénoncent l'absence d'éléments nouveaux après l'échec des premiers rendez-vous. Chacun bute sur ses positions. 5% d'augmentation de salaire réclamée contre 2% proposée. Plus de 9000 soldats russes sont déployés dans l'est de l'Ukraine. Affirmation du président Porochenko démentie par Moscou. Une chose est sûre, les canons tonnent toujours dans l'est séparatiste alors que les chefs des diplomaties russes, ukrainiennes, allemandes et françaises se retrouvent ce soir à Berlin pour normalement préparer un futur sommet de paix. L'Allemagne, où le leader du mouvement anti-islam Pegida a démissionné suite à la publication d'une photo où il arbore une coiffure et une moustache à la Hitler. Le mouvement attend ce soir 60 000 personnes à Leipzig. C'est historique, et là le terme n'est pas galvaudé. Un haut responsable sur le sol cubain, un haut responsable américain sur le sol cubain, c'est une première en 35 ans. La sous-secrétaire d'État pour l'Amérique latine, Roberta Jacobson, est arrivée à La Havane ce soir où ont débuté des pourparlers à huis clos. Ils visent à préparer le rapprochement entre les États-Unis et Cuba et ainsi tourner la page de plus d'un demi-siècle d'antagonisme. La météo, l'Ardèche, la Drôme et la Loire restent en vigilance orange, neige et verglas jusqu'à demain matin. De la neige aussi attendue sur le Limousin et l'Auvergne. Ailleurs, ce sera un jeudi nuageux et pluvieux. Les éclaircies arriveront par l'ouest dans le courant de la journée. Le rendez-vous, Laurent Goumard.
Refaites-le.
Le rendez-vous, Laurent Goumard.
Merci Michel Ponge, on vous retrouve à 22h pour le journal de la rédaction.
Le journal.
À tout à l'heure.
Ouverture du magasin dans 4, 3, 2, 1, ouverture.
Solidaire. Solidaire.
Tu vas répéter tout le temps, dès que j'ai essayé les solidaires, tu vas répéter
solidaire.
Et ce sera aussi politique ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de supermarchés, de licenciements, d'éditions, de Lolita, d'Henry Miller et même de la gauche. Avec Corinne Maziero à l'affiche de Discount, le film de Louis-Julien Petit, un nouveau rôle de caissière pour une actrice formée au théâtre de rue et nommée au César pour son rôle dans Louise Vimer. Manu Farine.
Portrait d'une comédienne qui se ressource au théâtre de rue, défend les acteurs du Nord, milite pour le Front de Gauche et que son réalisateur définit comme une actrice travailleuse.
19h30, c'est la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme le film Listen Up Philippe de l'américain Alex Ross Perry. Et puis 19h35, plateau autobio avec Juliette Kahn qui signe Une fille ou comment écrire le portrait de son père, Maurice Giraudias, éditeur de Lolita de Nabokov, d'Henry Miller et de Dirty Books, et trouver sa place de narratrice entre elle et je, Manu Farine.
ou comment une fille, née des années après sa propre naissance, raconte son père, mort des années avant sa naissance. Explication nécessaire à suivre avec Juliette Carre.
Ça, c'est vrai que c'est nécessaire. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre bien sûr avec le son du jour.
Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti ? Le côté obscur. Et la lumière.
Bonsoir, Zoé Sfez.
Bonsoir, Laurent Gomard. La lumière fut, c'est moi.
Ah oui ?
Non.
Ah non, ça je vous l'assure. C'est votre son du jour.
Oui, alors.
Et cette fois-ci, il est assez frais.
Il est assez frais. C'est la bande-annonce du fameux prochain Star Wars, de Star Wars 7, de la fameuse trilogie de George Lucas, très attendue.
Le Star George Wars 7 Lucas. De la fameuse trilogie. Il y a une sorte d'incohérence.
Non, voilà. La suite de la fameuse trilogie, donc, qui reprend, en fait, qui est la suite du tout premier Star Wars sorti il y a plus de 30 ans. George Lucas, qui a fait une sortie très, très remarquée contre Disney. Le réalisateur a regretté dans une interview hier que la firme aux grandes oreilles avait décidé de ne pas reprendre ses idées dans le 7e volet de la saga. Je rappelle que lorsqu'il a vendu sa société de production, Lucasfilm, détentrice des droits de Star Wars au studio Disney en octobre 2012, le créateur de la saga avait déjà prévu la nouvelle trilogie, il avait même esquissé les grandes lignes des scénarios et il pensait lui-même réaliser les trois films. Finalement, ils ont développé leurs propres idées, celles qui apparaîtront à l'écran ne sont absolument pas celles que j'ai écrites à l'origine. Pourtant, Disney semblait accorder beaucoup d'importance à la vie de George Lucas. Le jour de la vente, l'un des patrons de la société avait précisé que la vente incluait la trame principale des trois prochains films et que George Lucas serait consultant créatif sur le film, ce qui n'est finalement pas. Alors, est-ce que l'esprit Star Wars a vraiment été trahi ou bien est-ce que George Lucas n'est pas tout simplement un peu aigri ? Les fans débattent. Réponse le 18 décembre prochain, ça fait long, lors de la sortie du film.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour, Zoé, dossier consacré à une affaire assez complexe qui s'apparente à une vaste escroquerie. Tout commence il y a un peu plus d'un an, le 19 décembre 2013, pour célébrer à la fois le 10e anniversaire du classement du Palais Royal du Cambodge au sein du patrimoine immatériel de l'humanité et les 20 ans d'existence du Comité international pour la sauvegarde et le développement du site historique d'Angkor au Cambodge. Un concert était organisé pour la première fois dans le temple d'Angkor Wat.
Oui, alors ça fait long tout ça, c'était un événement assez exceptionnel qui a fait grand bruit à ce moment-là, l'opération était placée sous l'égide de l'UNESCO, des ambassades de France au Cambodge, en Birmanie, de l'école française d'Extrême-Orient, et elle avait été confiée à une association française, Chloros Concert, une association dirigée par une certaine flûtiste et chef d'orchestre, Odile Perso, peu connue mais visiblement assez active.
Un nom assez programmatique, on va le voir.
On va le voir. Alors, nul ne sait vraiment comment est-ce qu'on lui a attribué la réalisation de ce projet, mais c'est elle qui, pendant un an, va monter cet événement qui réunit donc le Ballet National du Cambodge, l'Orchestre National de Birmanie, mais aussi l'ensemble de musique de chambre Déséquilibre, dirigé par Agnès Pica, ravie à ce moment-là de participer à un projet aussi prestigieux et grandiose comme elle l'explique.
En tout cas, au départ, aucune raison de se méfier a priori, d'autant plus puisque donc le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, l'Institut français, l'UNESCO soutenaient cet événement. On s'est retrouvé donc là-bas et effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait 4 vidéastes, 3 ingénieurs lumière. C'est vrai qu'en avançant, tout le monde a quand même commencé à se poser la question de savoir un petit peu d'où sortait cet argent. Parce qu'il y avait vraiment, donc, enfin, je vous dis, une profusion de moyens qui était, en tout cas, qui était affichée. On était dans des hôtels de luxe, on mangeait toujours dans des restos de luxe, il y avait des chauffeurs. On avait à peu près donc mis bout à bout les chiffres que nous connaissions. Hein. On arrivait à peu près à 2 millions de budget. Donc pour 4 concerts comme ça, c'est quand même considérable.
Le jour du concert seront présents le roi du Cambodge, le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi et même la ministre de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti.
Oui, alors même pour l'occasion, un théâtre entier a été construit dans le temple d'Angkor. Il aura nécessité des mois de conception, de travaux. C'est Béatrix de la Tour d'Auvergne qui est scénographe, qui a travaillé pendant 6 mois sur ce projet avec 3 collaborateurs en France, plusieurs entreprises en travaux, ingénieurs, architectes sur place. Sauf que, comme tous les gens qui ont participé à cet événement, elle n'a jamais été payée. Personne n'a été payé, ni les musiciens, ni les techniciens, ni même les hôteliers. Béatrix de la Tour d'Auvergne, elle, pourtant aussi, a trouvé que ce projet inspirait la plus grande confiance.
donc à Phnom Penh, on a rencontré l'équipe de menuiserie, les ingénieurs et architectes en fait qui allaient suivre le chantier sur place, ainsi que l'UNESCO à Phnom Penh qui nous a reçus dans ses bureaux pour une réunion avec tous les prestataires. Pour vous expliquer un petit peu que les institutions en fait étaient présentes, ce qu'elles refusent un peu de dire aujourd'hui en fait. Moi j'ai perdu pas mal d'argent puisque j'ai payé les personnes qui ont travaillé pour moi, donc j'en suis à peu près entre 10 et 12 000 euros de perte en fait. Non seulement j'ai pas été payée, mais en plus j'ai perdu.
Devant l'évidence, tous les prestataires lésés ont fini par porter plainte contre Odile Perso.
Odile Perso qui est abonnée absente depuis au moins 6 mois. Ni elle ni ses administratifs ne répondent. J'ai tenté de joindre leur avocat sans succès évidemment. Quant aux institutions, donc l'UNESCO, les différents ministères, etc., eh bien, elles se rejettent toute la balle. L'UNESCO admet avoir écrit une lettre de recommandation à Odile Perso, mais indique qu'elle n'était pas engagée financièrement. On ne sait pas vraiment qui finançait, en tout cas a décidé de cet événement. Pourtant, toutes ces structures, eh bien, elles traînent depuis longtemps, tous ces prestataires, des trous de trésorerie, donc depuis un an. Et Agnès Picat de l'Ensemble Déséquilibre lance aujourd'hui un véritable cri d'alarme.
Avant la fin du mois de janvier, nous n'avons pas trouvé une solution financière. Nous allons être en situation de cessation de paiement. De toute façon, la seule solution, je pense, qui puisse se faire dans l'urgence maintenant, c'est une solution venant des ministères. Ne serait-ce que se porter caution auprès d'une banque pour qu'ils nous aident le temps que la justice fasse son travail. Il y a bien d'autres personnes lésées. Il y a entre autres 3 sociétés au Cambodge qui sont dans une situation absolument catastrophique. Une société qui s'appelle Archetype, à qui Chloros doit 65 000 dollars à l'heure actuelle. Une société vietnamienne qui s'appelle Saigon Sound System. Monsieur Rod Quinton, qui dirige cette société, a été obligé de vendre des biens pour pouvoir survivre et est actuellement dans une situation absolument désastreuse. Que je veux éviter de toute façon, c'est effectivement de déposer le bilan à cause de cet escroc qui est Odile Perso, et je pèse mes mots quand je parle de cette femme.
Voilà, alors le ministère de la Culture qui a changé de tête, je rappelle, depuis cette histoire, puisque c'est maintenant Fleur Pellerin et non plus Aurélie Filippetti qui est à la tête du ministère de la Culture, indique qu'il va tenter de centraliser les demandes des prestataires pour essayer de les aider. Et puis Odile Perso a visiblement une nouvelle affaire qui lui tombe dessus, puisqu'on vient d'apprendre qu'en 2014, elle avait proposé à un distillateur charentais, Eric Pinard, rencontré en 2013, accueillir un récital dans sa distillerie. Il avait accepté, il avait démarré les travaux et qu'elle lui imposait. Et quelques mois plus tard, et 136 000 euros plus tard, eh bien, il n'y a toujours pas d'argent ni de concert de la part de cette dame.
Eh bien, j'appelle ça un génie. Tout de suite, les brèves.
Oui, et l'on ouvre avec la mort de la danseuse étoile Wilfried Piolet, chorégraphe, pédagogue à l'Opéra de Paris. Elle avait 71 ans, elle a été nommée danseuse étoile en 69 et elle a gardé le statut d'étoile invitée jusqu'en 1988. Elle a dansé notamment brillamment Balanchard et Serge Liffard.
Non, Balanchine.
Balanchine et Serge Liffard. Oh là là, je fais des mots valises, c'est terrible.
Oui, c'est
désolée,
vrai.
En plus
surtout,
avec vous, c'est
très compliqué.
Surtout, elle
a dansé Cunningham aussi. Et à ce moment-là, quand elle a rencontré Cunningham, ça a véritablement changé son parcours de danseuse étoile. Un éditeur brésilien, Grupo Gol, lance une bibliothèque en ligne en Espagne.
Avec l'ambition de séduire aussi toute l'Amérique latine et pourquoi pas l'année prochaine, la France. Alors le projet, c'est Nouvem de Libros, lancé en 2012 au Brésil et qui compte déjà plus de 2,5 millions d'abonnés. Moyennement un paiement mensuel, les clients peuvent consulter en ligne plus de 14 000 ouvrages, romans classiques, modernes, encyclopédies, livres de classe et même dépêches d'agences, dont l'AFP.
Al Gore organise une tournée mondiale pour le climat.
Et oui, plus d'une centaine d'artistes, c'est encore assez mystérieux, mais emmenés par Pharrell Williams, sur tous les continents vont participer le même jour à un concert mondial, Live Earth, des concerts qui auront lieu dans les plus grands stades en Chine. Ensuite suivront Sydney, Rio de Janeiro, Le Cap, New York et Paris selon Al Gore. Voilà.
C'est parfait. Et la dernière ?
Alors... La dernière, c'est une petite information que je voulais vous donner, une histoire de cirque, de dictature, une histoire assez ironique car on n'en a pas assez parlé, mais hier c'était la soirée de gala, c'est pas possible, hein, de gala.
Est-ce que les mots peuvent arriver dans l'ordre s'il
vous
plaît.
Ça vous arrive aussi Laurent Goumard.
Jamais.
Hein, jamais, jamais. Donc hier, grand moment, c'était le 39e Festival International du Cirque de Monte Carlo, qui est un petit peu quand même le Festival de Cannes du cirque, et où c'est donc le prince Albert II de Monaco et sa sœur Stéphanie compagnies qui remettent des clowns. C'est donc le terme. Il y a des clowns d'or, d'argent et de bronze. Vous rigolez, mais c'est un peu la palme d'or. Donc voilà, donc le clown de bronze est remis. Ne riez pas, c'est très sérieux. À pas mal de gens. Là, en l'occurrence, c'était à des troupes russes et chinoises. Il y a eu aussi un clown d'argent. Et à qui est allé le clown d'or, chers amis? Vous ne le devinerez pas.
Bah non.
Eh bien, il est allé à un duo qui a survolé la compétition. C'est la Corée du Nord qui remporte le clown d'or donc de ce festival de cirque grâce à une troupe nord-coréenne qui a fait un pas de deux et un exercice époustouflant de voltige aérienne avec quadruple saut périlleux, avec grande ovation donc des 4000 spectateurs présents. Comme quoi, si au cinéma ça marche pas forcément bien, le cirque, ça marche très bien pour la Corée du Nord.
J'ai rien compris. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Corinne Maziero et Judith Kahn?
Est-ce qu'il y a un casting pour faire Chewbacca dans la...
dans la version de George Lucas qui ne sera pas présidée par George Lucas, c'est ça?
S'ils prennent Chewbacca avec un accent du Nord, moi je vais bien le faire.
Très bien. Bon, on va soumettre ça à l'idée à Disney.
Bah ouais. Ouais. Ouais.
Judith Kahn?
Non, rien de spécial. J'ai juste noté qu'il y avait un vigneron qui s'appelait Pinard, je crois. Mais...
Tout à fait. Moi aussi, voilà. Mais je crois qu'il fait du cognac, il ne fait même pas du vin.
Et j'espère qu'ils ne vont pas prendre dans la caisse pour les intermittents du spectacle pour payer l'escroc.
Il ne manquerait plus que ça.
Ce serait déjà qu'on en chie comme ça. Donc, moi, c'est ce que je souhaite. N'est-ce pas, Madame Pellerin? S'il vous plaît, merci.
Le rendez-vous.
Ceci est le carton 1, ceci est le carton 2 avec une poule. Ça, c'est un rayon que j'ai enlevé les casseroles. À gauche, Mbindo, à droite, Jérôme.
Non.
Jardincourt. Tiens, tu fais rayon. Rayon. Alors, t'es pénultième, tu regardes, est-ce qu'il y a Mbindo là? Non, il n'y a personne. Est-ce que Jérôme, l'enfoiré, là? Non, il n'y a pas là.
Tu dissimules les produits que tu dois jeter et tu recouvres de manière maternelle.
Tu ne lâches rien.
Tu ne lâches rien.
Rayo! Rayo! Oh, t'es pénultième! Bindo! Jérôme! À deux, tiens, on lâche rien!
Ça vous fait rire, hein, encore Corinne Maziero, c'est vous qu'on entend dans cet extrait.
Putain, ouais. Parce que voici, il m'avait piqué ma réplique, Pascal de Molon, le bâtard.
Pardon? Le bâtard, c'est son nom de famille?
Oui, c'est le bâtard. Voilà.
Tato que... solidaire donc avec vous, Corinne Maziero, comédienne, un parcours qui commence sur le tard à 28 ans, qui passe par les planches, le théâtre de rue, avant que le cinéma et la télévision ne vous appellent. Il y a eu les adaptations de Fred Vargas par José Dayan, Engrenage sur Canal+, et plus récemment la série Ainsi soit-il sur Arte. Au cinéma, bien sûr, De Rouille et d'Off.
D'Off?
Non, ça c'est un hommage à Zoé Stez. Voilà. De Rouille d'Os de Jacques Audiard, Louise Humer de Cyril Ménégin, qui vous a valu une nomination comme meilleure actrice au César en 2013. Et aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de Discount, une comédie sociale de Louis-Julien Petit, prix du public au Festival d'Angoulême. Vous y interprétez Christine, qu'on vient vous entendre. Christiane.
John.
C'est pour ça que je n'avais pas bien compris.
Christiane,
caissière d'un hard discount dans le Nord, menacée de licenciement pour cause de mise en place de caisses automatiques. Et parce que voler des voleurs, eh bien, ce n'est pas voler. Christiane et quatre collègues vont créer clandestinement un discount alternatif en récupérant des produits qui auraient dû être jetés et en se servant aussi un petit peu avant la mise en rayon. Bande annonce, retravaillée.
Ouverture du magasin dans 4, 3, 2, 1. Ouverture.
Vous êtes une de nos plus anciennes ici. Il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir.
Avec la banane.
On se fait virer? En plus, faut sourire.
Alors, soit on se couche, soit on se bat. On va se battre, non?
Annonce la couleur.
Ce discount, c'est une mine d'or. Imaginez qu'on puisse prendre de la marchandise pour créer notre magasin. Notre discount à nous.
Tu veux qu'on vole?
Non, j'ai pas dit voler, j'ai dit prendre. En 3 mois, on se l'a fait, notre prime de licenciement.
J'ai des produits pas chers, t'intéressais?
Pas cher, mais pour ça, faut fermer sa gueule.
Café, sucre.
Attends, et des légumes aussi, parce qu'il y a pas de raison que les pauvres, ils bouffent de la merde.
Viens demain à 5h.
Et pas un mot, rien.
Non, 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 pas de soucis.
D'accord.
J'espère que c'est pas des produits volés.
7000.
10630. Net.
Non, mais nous, on a une bonne mentale. On sait peut-être avoir, mais on n'est pas des voleurs.
On vole pas. On vend des produits qui auraient dû être jetés.
Puis après tout, voler des voleurs, c'est pas voler. Hein. C'est comme qui dirait une rébellion.
Positive.
Solidaire.
Ce qu'il faut, c'est surveiller tout le monde.
On est dans la merde, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Moi, j'ai une petite idée, mais je sais pas si ça va vous plaire.
Et eux, c'est qui?
Ah, c'est...
Moi, c'est Wally.
Ah, ouais. C'est pote d'enfance, mais...
T'as une bonne tête de délinquant, hein.
À propos du casting, Corinne Maziero, Louis-Julien Petit, le réalisateur, parle de vous et de vos collègues, Pascal Demolon, Mbarek Belcouc, Sarah Le Succo et Olivier Barthélémy, comme des acteurs travailleurs. Est-ce que c'est une définition qui vous convient et qu'est-ce qu'elle dit de vous ?
Oui, moi, elle me convient parce que de dire de moi que je suis une travailleuse, vous savez ce que c'est qu'une travailleuse en argot ? C'est une prostituée. Et moi, j'ai fait le tapin pendant un moment dans ma vie, donc oui, ça me correspond. Et puis parfois, aller faire la comédienne dans certaines séries, certains films, c'est un peu aller faire le tapin aussi, mais d'une manière moins dangereuse. Voilà.
Vous pensez que c'est cette exception-là à laquelle il pensait quand il parle d'acteur-travailleur ou une dimension
sociale et politique ? En ce qui me concerne, je ne crois pas. Il doit être en train de se bouffer. Donc. Non, parce que travailler, parce qu'en fait, on a vachement bossé avec lui. C'est un très grand directeur d'acteur, Louis-Julien Petit. Il travaillait un peu d'ailleurs un mélange de Cyril Méneghin et de Jacques Audiard, vraiment, hein, sincèrement.
C'est-à-dire qu'il
adore proposer des impros. Il adore, donc il faut être toujours travailleur au sens, il faut être prêt à fournir et à proposer des choses au moment où il veut. Et puis il est beaucoup à l'écoute, c'est-à-dire qu'il a rassemblé ce casting, on ne se connaissait pas les uns les autres, hein, du tout. Et il a réussi à prendre des ingrédients en prenant un peu de Barthes, un peu de Demolon, un peu de Sarah Succo, un peu de moi, et un peu d'Embarek, en se disant, tu vois, si je mélange tout ça, ça va donner ça. Et pareil avec ce qu'on appelle les acteurs de complément, c'est-à-dire les figurants. Il les faisait travailler aussi, et il nous demandait de travailler comme eux, c'est-à-dire de fournir autant d'efforts, d'imagination, et s'adapter à ce qui se passait sur le moment présent. Donc c'est, je pense, dans ce sens-là qu'ils étaient travailleurs, parce que sinon, c'est quand même bien fendu la gueule.
Manu Farine.
Alors justement, pas de répétition, pas de lecture de scénario, et donc ce film choral où les acteurs ne sont rencontrés qu'au moment du tournage, qu'est-ce que ça impliquait pour vous, ou qu'est-ce que ça permettait en termes de jeu ?
En termes de jeu, bah, ça permet d'apprendre à d'oser se tromper, et ça c'est vachement important, parce que de plus en plus les productions sont de plus en plus réduites, on a de moins en moins de temps de tournage, ce qui fait qu'on ne peut plus se permettre souvent ce genre d'accident. Moi c'est ce que j'aime dans le jeu, c'est les accidents, les incidents, avec les copains, avec les collègues, et avec le réal aussi, avec l'équipe technique qui propose des choses aussi.
Vous pensez à quoi par exemple ici dans ce film ? Qu'est-ce qui vous a remarqué ? Est-ce qu'il y a une scène accidentelle ?
Mais il y en a plein. Dans toutes les scènes, il y avait des petits accidents. C'est-à-dire qu'il nous fait, faire la scène.
Sans répétition.
Sans répétition, bien sûr. Et puis, si, on fait toujours pour la technique.
Bien, oui, bien sûr.
Pour les copains de la technique, bien évidemment. Et puis après, il y a un truc qui se passe. Et puis, let's go, quoi. Alors, tu es obligé toujours d'être un peu comme en théâtre de rue, où c'est, voilà, on y va et on ne peut pas s'arrêter. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de dire stop, j'arrête là, nanana. Et dans la scène que vous avez envoyée au début, entre Pascal et moi, en TP nultième, etc., c'est ce qui s'est passé aussi. Ça, c'est une scène accidentelle. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, voilà, toi, tu vas dire juste une réplique. Et puis, c'était celle que Pascal a dite à un moment donné. C'est pour ça que j'ai dit qu'il me l'avait piqué. Et puis, moi, je suis parti dans une impro, en fait. Et puis, ça a donné un truc. Voilà, ça, c'est de l'accident que lui ose prendre. Et avec le producteur, la productrice, en l'occurrence, Lisa Benguigui, qui est une putain de gonzesse que j'adore, qui a permis ça aussi, qui est un peu l'équivalent féminin de Bruno Nahon, le producteur de Louise Wimmer.
Pour préparer son film, est-ce qu'il vous en a montré des films ? Est-ce qu'il vous a demandé des choses précises, d'aller rencontrer des caissières, d'aller...
Non,
pas du tout.
Non, il ne me l'a pas demandé et de toute façon, j'aurais refusé parce que c'est comme pour... c'est comme dans Louise Wimmer, par exemple, de dire je vais aller passer 15 jours dans une bagnole dormir dans la rue. Je veux dire, je trouve ça presque obscène, qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas non plus. En revanche, lui, il a rencontré la nana qui a inspiré le rôle de Christiane, qui est une nana qui s'est fait licencier parce qu'elle avait pris, elle était caissière, elle avait pris des comment on appelle ça, des trucs de réduction qu'on a à la caisse.
Les bons de réduction.
Voilà, des bons de réduction qu'on laisse tout le temps là. Elle les avait pris, voilà, et elle s'est fait licencier pour ça. Elle a eu des gros problèmes et elle a reçu plein de soutien. Un peu, c'est ce qui a un peu provoqué l'écriture du film aussi chez Louis-Julien. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que c'était pas sombre. C'est pour ça qu'il en a fait une comédie aussi. C'est-à-dire que l'élan de solidarité, les gens qui lui ont envoyé des courriers à cette dame, lui ont fait dire « Mais moi, on peut se défendre, on peut essayer de créer autre chose, de construire autre chose, passer des limites, passer les lois comme ils le font, en restant avec la banane. »
Manu Farine.
Le film se passe dans le Nord. Vous-même, ouais. Vous êtes originaire de Douai.
J'habite à Roubaix, moi. Toujours.
Vous utilisez volontiers votre intonation du Nord au cinéma. Mmh. Parfois même, vous glissez un peu de patois. Mmh. Et vous êtes à l'origine, je crois, d'une association qui promeut Acteurs en Or. Le Nord qui a quand même été très, très cinématographique ces dernières années. Qu'est-ce qu'il faut défendre, malgré tout, avec cette association?
Ce qu'on défend à la base, on a fait ça avec des copains, hein, c'est de montrer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de rôles qui se faisaient, des choses qui se faisaient, qui se tournaient dans le Nord, mais les rôles principaux étaient distribués à Paris. Alors souvent parce qu'on nous prenait sûrement pour des babaches. Et en fait, dans le Nord, il y a beaucoup de petites compagnies et de moyennes et de grosses compagnies de théâtre, donc beaucoup de comédiens, très très bons, excellents. Et on s'est dit, mais putain, pourquoi les mecs, ils prennent pas ces gens-là pour leur donner les premiers rôles? Donc on a essayé de promouvoir le talent des acteurs dans le Nord et leur montrer qu'on était en Nord, voilà. En faisant des râteliers. C'était des ateliers pour les vieux comédiens avec des ratiches, on appelait ça des râteliers. Et on continue toujours d'ailleurs.
Corinne Maziero, c'est la troisième fois au moins d'ailleurs que vous interprétez une caissière. C'est ce que vous étiez dans Les Reines du Ring de Jean-Pierre Rudkini avec Nathalie Baye et Marie-Lou Berry, mais aussi dans De Rouille et d'Os, ouais, de Jacques Audiard. Ça devient un emploi, comme on parle d'emploi au théâtre?
Je sais pas, moi je parle pas de personnage, je parle d'abord de défendre les films et défendre un film comme celui de Julien, que ce soit pour faire une caissière ou pas. Non, moi les personnages, ça existe pas, le personnage c'est le comédien, c'est sa voix, c'est ses yeux, c'est tout ça. Et puis c'est pas une honte de jouer.
Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Mais justement, je me demandais comment vous comprenez depuis quelques années justement, ouais, l'émergence de ce personnage dans le cinéma français.
Bah, peut-être qu'enfin, il y a des gens qui laissent la place à autre chose que des rôles de bourgeoises et de bourgeois et qui ont des petites histoires d'amour et qui se passent dans des grands 150 mètres carrés dans le 16e à Paris. Et puis, il n'y a pas que ça dans la vie. Peut-être que en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas, comme dirait mon camarade Pascal de Molon, peut-être que ça va faire bouger un petit peu les choses. J'espère. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens à qui on ne donne pas la parole finissent par se révolter de manière plus destructrice que la construction qui se passe dans le film de Julien.
Juliette Kahan, une caissière, c'est aussi ce que filme longuement et clandestinement le héros cinéaste de l'un de vos précédents romans. Qu'est-ce qu'il filmait au fond ?
Oh là, j'aurais un peu du mal à repartir cette histoire-là. Mais ce que je voulais dire à propos de Corinne Maziero, c'est que j'ai adoré Louise Vimer. Bon, j'arrive un peu tard pour le dire, hein, c'est pas...
Mais non, surtout qu'on va en reparler, ne vous inquiétez pas.
J'ai trouvé que c'était un film vraiment formidable et j'ai trouvé que Corinne avait une façon de le... De porter ce personnage quand même, bon, tellement forte que, enfin, elle le fait quasiment sortir de l'écran, quoi. Enfin, moi, des Louise Vimer, je connais des femmes qui lui ressemblent en tout cas, et j'étais très 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 épatée par ce boulot de, voilà, la c'est façon vrai. Dont ça devient une personne et c'est plus un rôle de cinéma.
C'est parce que c'est soutenu et c'est dirigé et c'est créé par un grand, grand réal qui s'appelle Cyril Méneguin, que je salue au passage.
À ce sujet, justement.
Justement, puisqu'on parlait de direction d'acteur, il avait une méthode un petit peu particulière pendant le tournage de Louise Vimer. Je crois que vous avez travaillé avec une oreillette, c'est-à-dire en lien permanent avec lui, au moment
pas
du
tout le temps,
tournage,
mais parfois, oui.
Sans que personne sur le plateau ne soit informé de ça.
À part la Gesson.
Qu'est-ce qu'il cherchait en fonctionnant comme ça avec...
Il cherchait un peu à faire ce que je disais tout à l'heure, des accidents, provoquer des accidents, des incidents avec les... Non seulement avec moi, parce que parfois, moi, je suis une grosse feignasse, donc je fais un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc parfois, il me disait, Maziero, fais pas ta Maziero. Ou alors, quand
c'est,
c'était...
C'est quoi faire
sa Maziero?
Faire
ouais.
Maziero, c'est-à-dire, tu vois, se tirer comme ça, puis vas-y, parler un peu comme ça, puis vas-y, ta gueule, dire des gros mots... montrer sa touche et tout, voilà. Donc non, lui, il voulait, Louise Vimer, quelqu'un qui parle un peu comme ça. Donc on avait des codes, c'est-à-dire qu'il me disait « Pilate » dans l'oreillette. Je vous explique pas pourquoi, ça va prendre 2 heures. Voilà, quand j'entendais « Pilate », ça voulait dire « Bon, allez, respire, tiens-toi bien, mets ta petite voix un peu, ta voix un peu de France Culture. » Et voilà.
Vous pensez qu'on parle comme ça? On m'était jamais rendu compte.
Qu'on a, non.
J'adorerais parler comme ça.
Tu vois les vieux clichés qu'on a, d'un côté comme de l'autre. Et non, puis en plus, quand il y avait des séquences avec des camarades comédiens, ils disaient par exemple, réponds pas, dis pas cette réplique-là. Donc ça provoque un accident chez l'autre, ouais. Et puis un ping-pong après, évidemment sans piéger le copain. Hein. Ça provoque des belles choses. Quoi. Les accidents, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que quand tu arrives à faire sortir du vrai dans les yeux Et dans le phrasé d'un acteur, waouh, ça déchire tout, quoi. C'est pour ça que Louise Wimmer... Et Julien, c'est ce qu'il a fait aussi sans l'oreillette. Il est balèze, lui, hein, sans l'oreillette. C'est-à-dire, comme il gueulait tout le temps sur le... Ah, je t'en supplie, fais pas ça, et tout ça, que, donc, il n'avait pas besoin d'oreillette, on l'entendait très bien.
Corinne Mazurou, le cinéma est arrivé assez tard pour vous. Ça, c'est une voix de France Culture, telle que vous pensez.
Bonsoir, Macha.
C'était pas la même chaîne. Enfance dans le Nord, parents ouvriers, communistes, vous-même, vous y avez été encarté. Une première jeunesse agitée, vous dites avoir tout vécu à ce moment-là, toxicomanie, le tapin, SDF, avant que vous ne tombiez par hasard sur le théâtre à 28 ans. Qu'est-ce qui aura été l'élément déclencheur, justement, avec ce théâtre ?
C'est de monter sur un plateau avec des gens. C'est le travail de groupe, de troupe forcément, qui n'est pas forcément que la partie artistique. Et puis d'arriver sur un endroit où on avait le droit d'être écouté, où non seulement j'avais le droit d'être écouté et d'être regardé, mais en plus on me demandait de le faire. Et ça m'a troué le cul. Et je me suis dit, mais ça s'est passé en une heure et demie. Je me suis dit, ben voilà, moi c'est ça que je veux faire. Donc en l'occurrence, comme je ne savais pas foutre grand-chose, vu que techniquement je ne sais pas faire grand-chose, comédien, c'était ce qui est le plus simple à faire. Donc voilà, j'ai dit, je vais faire ça.
Manu ?
Très vite, vous êtes engagé par Thierry Poquet, qui dirigeait une compagnie qui n'existe plus, hein, qui s'appelait le collectif Organum. Mmh. Quel théâtre défendait ce collectif-là ? Qu'est-ce que vous y avez appris ?
Grosso merdo, le dawa. Le dawa total, c'est-à-dire que le collectif Organum, c'était un collectif. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, comme ça dit, tout le monde décidait de...
Une trentaine de personnes, hein, à peu près.
Ouais, à peu près. Pas sur tous les spectacles, mais en tout cas. Et c'était vraiment la colonie de vacances quand on partait en tournée. On faisait des dates un peu partout en Europe. Là. On partait avec des semi-remorques et des machins. Ça, c'était un peu le côté circassien de la chose. Comme... Mais nous, on n'avait pas des clowns d'or ni d'argent, parce que ce n'était pas le genre de la maison. Et le théâtre de rue, c'est un truc que tu vas vraiment sur le terrain rencontrer les gens. Et un théâtre de rue, c'est... Il n'y a personne, tu vois, au théâtre de salle, genre, les gens, c'est rarissime, quelqu'un dise « Ouais, fou, enculé, ça », ou qu'ils s'en aillent. Théâtre de rue, si tu captes pas l'attention, les gens ils t'écoutent pas, puis basta cosy. Donc c'est à toi de créer l'attention et en plus de travailler avec les autres. Donc c'est tout le temps un ping-pong comme ça et c'est trop bandant quand t'es comédien, c'est vraiment chouette. Et donc voilà, il défendait le fait de pouvoir rêver de tout, de proposer des choses provocatrices, parfois qui pouvaient paraître un peu punk et intello, je veux dire ça comme ça. Et en tout cas, on se pendait la gueule, puis on faisait tout, les costumes, les machins, les patins, les couffins. Et c'était un échange beaucoup, parce qu'on était tous, sur 30 personnes, très différents les uns des autres, et malgré tout, cette machine fonctionnait.
C'est un univers que vous retrouvez régulièrement ?
Oui, parce que mon mec a une compagnie de théâtre de rue à Roubaix.
À Roubaix, ouais.
Ouais, qui s'appelle Les Tournoiements. De temps en temps, j'y vais. Et là, en l'occurrence, au mois de décembre, je suis allé faire un truc à Montréal avec une autre compagnie de théâtre de rue québécoise, qui s'appelle Mobile Home.
Alors, comme à chaque invité depuis le début de l'année, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi, Corinne Mazurou.
Bon, ben, on verra pendant, laisse tomber, envoie, on va voir.
Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres, oh oui. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Corinne Mazurou.
Il y en a plein parce que Didier Super, Olivier, et bah en 2003, quand on a démarré la coordination des intermittents dans le Nord, et bah il en faisait partie. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Et aussi parce que cette chanson-là en particulier, j'aime bien tout ce qu'il fait. Didier Super, pour moi, c'est un philosophe punk qui en fout plein la gueule à tout le monde alors qu'il a l'air. En même temps, vulgarité, moi je revendique.
On l'a reçu ici, hein, déjà.
Putain, mais ce mec, moi je le kiffe, mais dans tout ce qu'il fait, quoi. Et lui, vraiment, il sait dire les choses comme moi je sais pas faire. C'est un provocateur dans le bon sens, quoi. Il fait aussi de la rue, lui. Il fait de la rue, il fait du vélo acrobatique, etc. C'est un mec qui. Voilà, c'est un acrobate de tout. Moi, j'aimerais être comme lui, j'aimerais écrire comme lui, j'aimerais être. Voilà, il défend des trucs. Et alors, marre des pauvres, pourquoi ? Parce que Discount, on nous dit souvent, mais vous croyez de faire un film qui parle des pauvres, Louise Wimmer, c'était pareil, vous croyez que ça va faire du chiffre ? Bah oui, ça en fait du chiffre. Et puis, même si ça en faisait pas, on s'en fout. Voilà.
plaindre. Vous gâchez le bonheur des riches, y'en a marre des pauvres. Heureusement les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Corinne Maziero et Juliette Kahn, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la chronique du mercredi de Jean-Marc Lalanne. Cinéma, cinéma.
Oui, on va rester avec des pauvres, mais des pauvres très très urbains cette fois. Ce sont les personnages de Listen Up Philippe, un film qui sort également aujourd'hui, et qui est le troisième film de Alex Rosperi. Alex Rosperi, c'est un tout jeune homme. Il a seulement 30 ans, il vient de les avoir. Et il appartient à cette scène qu'on appelle le Mumblecore.
Dont vous avez déjà parlé, mais peut-être qu'il va falloir...
Alors, le Mumblecore, c'est la dernière génération de cinéma indépendant américain. Donc, c'est un cinéma très fauché, de films semi-improvisés, faits par de jeunes étudiants au cinéma qui racontent les histoires de leurs copains. Donc, c'est des histoires de jeunes hipsters qui galèrent, des histoires d'amour malheureuses dans des chambres, dans des petits studios à Brooklyn. Et c'est un cinéma d'une grande vitalité, d'une grande énergie. Les deux premiers films d'Alex Rosperi appartenait complètement à cette mouvance esthétique. Le nouveau est un peu plus produit et il bénéficie notamment de la collaboration de Jason Schwartzman, l'acteur qu'on connaît par le cinéma de Wes Anderson entre autres, et qui joue donc le rôle de Philippe. Philippe, c'est un jeune écrivain qui est en souffrance, qui n'arrive pas à aimer, qui n'arrive pas à se fixer sur une fille, qui n'arrive pas à écrire, qui est versatile, de mauvaise humeur. C'est un personnage d'intellectuel torturé qui est vraiment une citation évidente
de Woody Allen.
Du cinéma de Woody Allen. Et le film se réfère particulièrement à une période du cinéma de Woody Allen, qui est les années 90, un film comme Mari et femme, dont il emprunte complètement l'esthétique, c'est-à-dire caméra à l'épaule, cadre tremblant, imitation de l'esthétique du reportage. Donc un Woody Allen qui lui-même était déjà dans l'imitation du cinéma de John Cassavetes. Et si on ajoute, en plus de ces deux références balèzes, le film multiplie les clins d'œil à Philip Roth, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Zimmerman, qui renvoie à Zuckerman, le personnage récurrent de la littérature de Roth. On se dit que ça fait quand même beaucoup de bagages citationnels. C'est-à-dire Cassavetes, plus Woody Allen, plus Philip Roth, ça fait beaucoup d'existentialisme new-yorkais, de vagues à l'âme un peu arty. C'est vraiment ce qui pourrait être la limite du film, c'est que tout ça est lourd à porter, et finalement, à l'intérieur de ce cadre un peu conventionnel, le film réussit à dessiner une vraie singularité. Et cette singularité, il la doit à cause de la radicalité avec laquelle il dépeint un personnage violemment antipathique. C'est-à-dire que Philippe, joué par Jason Schwartzman, alors même que Jason Schwartzman est plutôt un acteur très très charmant, c'est vraiment un personnage dont l'antipathie est douloureuse. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui se cogne contre les autres, qui est atteint d'une sorte d'autisme existentiel. Le titre, c'est Listen Up Philippe, donc une écoute Philippe, une injonction à écouter. Et c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui est sourd aux autres, qui se cogne contre eux et qui n'arrive pas à les entendre et qui s'emmure en lui-même. Mais ce qui est beau dans le film, c'est que alors qu'il filme de manière comme ça très très habitée cet enfermement en soi-même, il fait exister tous les personnages autour de lui qui pour lui n'existent pas. C'est-à-dire que, notamment, il y a un coup de force magnifique dans le film, c'est que la compagne, à un moment donné, de Philippe, qui est jouée par Elizabeth Moss, qui est une actrice merveilleuse, qu'on connaît parce que c'est la secrétaire dans Mad Men, cette petite rouquine très très charmante. Donc Philippe, de manière un peu odieuse, va l'abandonner. Et il y a un coup de force génial dans le film, c'est qu'on s'attend à suivre le personnage principal, et pas du tout. On reste 10 minutes avec ce personnage secondaire qui devient tout à coup le personnage principal d'une partie du film, comme si le film jouait ses personnages secondaires contre le personnage principal et se rachetait auprès d'eux de l'ignominie de son personnage principal. Donc il y a plein de choses comme ça, très très fines, très délicates, qui font qu'à l'intérieur de ce qu'on pourrait se dire, on l'a vu 100 fois ce film indé new-yorkais, le film est très sensible, un peu âcre et très très attachant.
Un commentaire, Corinne Maziero ?
Acre, ça veut dire quoi ?
C'est un arrière-goût un peu amer. Et intéressant, un peu long en bouche, on y repense.
Et c'est quoi ce mouvement, tu dis, de truc indépendant, c'est un nom ?
Le mumblecore, ce qui veut dire en anglais marmottement, c'est parce que le son est toujours un peu approximatif et qu'on ne comprend pas tout ce que disent les gens.
Ok. Comme dans la vie, quoi.
Comme dans la vie, exactement.
Le rendez-vous.
Dans le cas de Nabokov, il y avait une espèce de complexe aristocratique qui faisait qu'il lui était difficile d'adresser la parole aux autres humains sur cette planète. Ça peut paraître désagréable et j'en ai souffert énormément parce qu'à cause de ça, j'ai eu vraiment des ennuis terribles avec Nabokov. Mais j'estime qu'au fond, il avait le droit d'être comme ça. Je crois que le génie a des droits que les gens ordinaires n'ont pas. Et j'estime que des types comme moi sont faits pour servir des types comme lui.
La filiation avec vous, Juliette Kahan, écrivaine, avec un cinquième livre, premier texte autobiographique, Une fille aux éditions de l'Olivier. Vous y revenez sur la figure de votre père, Maurice Gérodias, qu'on vient d'entendre justement en ouverture de ce plateau. Fils lui-même de l'éditeur et écrivain anglais Jacques Kahan, qui lui-même était éditeur, fondateur des éditions du Chêne et de The Olympia Press. Gérodias, c'est le premier éditeur du Lolita de Nabokov en 59, traduit par son frère Eric Kahan. Il a été aussi l'éditeur du Finstadnu de Burroughs, Henry Miller, Valérie Solanas, qui avait tiré sur Andy Warhol, et puis d'une kyrielle aussi de Dirty Books, des livres un petit peu pornographiques. Guerroyer contre la censure, provoquer les puritains, s'enrichir en s'amusant, ne rien prendre au sérieux, c'est son idée de la vie, écrivez-vous. Ce récit, vous avez mis pourtant pas mal de temps avant de l'entreprendre. Qu'est-ce qui en a retardé son écriture, Juliette Kahan ?
La relation que j'ai eue avec mon père, de son vivant, et même après sa mort, puisque il m'a fallu encore une vingtaine d'années après sa mort pour faire ça. Le fait que j'ai une enfance assez écrasée par ce personnage paternel, qui ne l'était pas tant que ça, paternel d'ailleurs, parce qu'il... Enfin, voilà, il était peu présent dans nos vies d'enfants, et quand il l'était, c'était plutôt pour nous emmener dans des boîtes de nuit et pour qu'on l'écoute raconter ses histoires à ses amis. Voilà, c'était un personnage comme ça, très très séduisant pour beaucoup de monde, très drôle, très
Flamboyant,
c'est ce qu'on a dit souvent. Mais paradoxalement, avec ses enfants, en tout cas, je parle pour moi, avec sa fille cadette, il n'était pas du tout comme ça, en fait. Il était plutôt quelqu'un d'assez glacial, c'est peut-être exagéré, mais il était quelqu'un de froid, de distant et surtout d'embarrassé. Je crois qu'il était très gêné d'avoir des enfants, qu'il n'avait pas du tout prévu ça dans sa vie, que ça ne l'intéressait pas trop et qu'il a commencé à s'intéresser à nous un peu à partir du moment où on n'était plus des enfants, justement. Voilà, quelque chose. Mais donc, voilà, c'est une enfance compliquée. Enfin, ça, c'est un versant de cette enfance. Il y a l'autre versant qui est ce que j'appelle le Capharnaüm dans le livre, c'est-à-dire l'appartement où je vis avec ma mère, ma grand-mère et ma sœur, donc une sorte de gynécée dans un désordre considérable qui est lié en particulier à la mélancolie de ma mère. Et voilà, donc c'est ça, cette enfance-là, puis une adolescence un peu tourmentée aussi, m'ont pas mis sur des rails précoces.
Manu Farine.
Alors, cette question est peut-être à mettre justement en rapport avec le statut du narrateur dans le livre. Vous écrivez dans les premières pages « Le mystère de son père, c'est quelque chose qui la sidère, la rend muette. » Muette, donc, c'est-à-dire que vous êtes présente ici à la troisième personne du singulier pendant un très long temps dans le récit, jusqu'à ce qu'au centre du livre, vous passiez enfin au jeu, à la première personne du singulier. Vous écrivez « Nous sommes le 3 mai 1968, vers 6h de l'après-midi. » Qu'est-ce qui se joue là pour que vous renaissiez précisément à ce moment-là et que vous preniez la parole ?
Ce qui se joue, c'est que pour moi, cette période de mai 68, dont on a dit tout et beaucoup de choses ont été dites sur cette période. La façon dont moi j'en parlerai aujourd'hui, maintenant, c'est que c'est un moment où justement tous les gens qui, d'une manière générale, ne parlent pas, sont muets, soit parce qu'ils n'ont même pas l'idée qu'ils auraient à dire quelque chose. Ça pourrait être Louise Wimmer, ça peut être les gens du discount, là, enfin, je ne sais pas. Il y a des tas de gens qui se mettent à ce moment-là à se dire qu'ils ont autant de choses intéressantes à dire que, je ne sais pas, que les dirigeants politiques, que les... Voilà. Enfin, en tout cas, il se passe ça dans Paris, puisque je suis à Paris, mais je pense dans toutes les villes de France et puis dans les endroits plus petits aussi, il se passe ça, que des gens qui se connaissent pas se mettent à se parler dans le métro. Après, il y a plus de métro, donc on se parle dans la rue. La place de la République, qui est aujourd'hui, enfin sur la statue, en tout cas, il y a plein de petites affichettes. Charlie, je suis Charlie, etc. Bah, à cette époque-là, pendant cette période-là, il y a des affichettes collées partout sur cette place, et voilà, de gens qui disent ce qu'ils ont à dire. C'est pas forcément des choses extraordinaires, mais en tout cas, il y a des gens qui se parlent. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, j'ai 20 ans en 68. Donc, c'est le moment où je me dis, enfin, c'est pas que je me le dise, mais ça se fait comme ça. Je veux dire, après tout, moi aussi, moi qui ai toujours été totalement muette et un peu écrabouillée, eh bien, moi aussi, j'ai peut-être quelque chose à dire. Voilà.
Mai 68, ce sera pour vous la découverte du militantisme, la LCR, puis la gauche prolétarienne. Vous allez quitter la gauche prolétarienne pour le mouvement de libération des femmes en 70. Oui. Pourquoi fallait-il en finir avec l'un et s'engager avec l'autre à ce moment-là précisément ?
Ah bah, c'était pas très compatible. De toute façon, je crois que la raison pour laquelle je suis passée de l'un à l'autre, enfin, il y avait d'autres raisons, bien sûr, politiques, enfin, plus directement politiques. Voilà, la gauche prolétarienne, j'y croyais plus du tout à ce moment-là.
Mais quelle raison ?
Pour quelle raison ? Parce que je trouvais que ça devenait totalement délirant. Enfin, ça l'avait peut-être toujours été, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'étais affectée dans un endroit qui s'appelle le Bas-Meudon, qui est derrière Renaud-Billancourt, et je devais aller vendre La Cause du Peuple, donc le journal de la gauche prolétarienne, dans les cafés-hôtels où les ouvriers de Renaud, qui étaient donc pour beaucoup des immigrés qui dormaient dans ces cafés, là où ils mangeaient quand ils sortaient de l'équipe du matin, et nous, on était censés aller vendre La Cause du Peuple à ces ouvriers qui sortaient de 8 heures de boulot, bien écrasés. Donc, ils étaient là, là ils mangeaient leur steak petit pois. Et puis, nous, on arrivait, il n'y avait que des filles, comme par hasard, dans cette unité. On était 4-5, voilà, les jeunes étudiantes fraîches et mignonnes. Et il y avait quelque chose là que j'ai trouvé impossible, enfin, un peu indécent. Et enfin, voilà, ça, c'est un exemple, mais pour vous dire qu'il me semblait qu'il y avait un décalage de plus en plus grand entre les idéaux. Les idéaux et la réalité, voilà. Donc le mouvement des femmes, ça me convenait beaucoup mieux. Et puis on pouvait en effet pas faire les deux, il fallait choisir. Et ça me convenait beaucoup mieux, au moins dans le temps où ça a été un mouvement spontané et jusqu'au moment où ça s'est refermé en groupe, en tendance et puis progressivement plus ou moins en petite, enfin en tout cas pour un groupe, une sorte de secte.
Vous comprenez cela, Corinne Maziero? Vous-même qui avez été encarté pendant pas mal de temps, vous l'êtes encore ?
Je le suis dans le cœur. Après, je le suis. Oui, je le suis dans le cœur parce que c'est sur le terrain, les gens, les cocos et les gens font divers gauches, on va dire d'extrême gauche aussi. C'est sur le terrain, c'est ceux qui sont le plus à bosser, à défendre ceux qui n'ont pas droit à la parole. Et donc, c'est très volontiers que je me bagarre avec eux. De forces diverses et variées. Après, c'est pareil, au niveau de la défense des droits des femmes, c'est pareil, quoi. Souvent, il y en a marre d'entendre dire les féministes, c'est un gros mot, ça va, quoi.
On entend deux choses. On entend les féministes, c'est un gros mot, et on entend aussi, et maintenant que tout le monde est féministe, où est le problème ? Alors qu'à mon avis, c'est pas du tout la réalité de la situation. Ça a beaucoup régressé, et donc c'est vrai qu'on entend les deux. C'est vrai qu'on a quelquefois un peu peur de dire qu'on est... Enfin, non, j'ai pas peur, mais je veux dire qu'on voit bien dans le regard des gens quelque chose si on dit qu'on est féministe.
Un petit air condescendant, souvent.
Oui.
Ouais. Manu Farine.
À propos de gauche prolétarienne, on a reçu, pour ne pas les nommer ici, Roland Castro et Gérard Miller, qui donc tous deux faisaient partie de la gauche prolétarienne et qui tous les deux nous ont dit en avoir fini avec ce militantisme-là au moment où s'est posée la question de la violence et de la lutte armée et qui tous les deux ont fait le deuil de cette révolution-là par la psychanalyse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait aussi, que vous comprenez ? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à voir celui que vous appelez dans le livre le docteur Schwenk ?
Juliette Kahn.
Non, Schwenk, c'était un peu plus tard, mais Roland Castro, c'était pas la gauche prolétarienne, c'était Vive la Révolution. C'était un groupe, disons, très voisin. Mais moi, l'analyse, j'y suis passée parce que, après quelques années de dérive assez. J'ai pas mal traîné dans les années 73, 74, etc. J'avais décidé de reprendre des études. et de devenir psychologue. Enfin, j'ai fait un DESS de psychopathologie clinique. Bon, et ça a impliqué plus ou moins de faire une analyse. Et puis, en fait, cette analyse, elle m'a surtout servi à moi parce que, voilà, j'ai jamais rien fait de ce diplôme, sinon que passer par cette tranche d'analyse, ça m'a un peu servi.
Par quoi vous avez commencé quand vous avez écrit sur moi ? Est-ce que vous avez commencé par la scène qu'on peut lire, c'est-à-dire une scène très précise ? Votre père passe la soirée dans son bistrot, la grande Séverine, avec deux autres chevaliers du sexe, comme vous l'écrivez, occupés à boire et à manger après signature sans doute d'un contrat d'éditeur. Et vous y apparaissez à peine jeune fille, vêtue d'une jupe vert pousse, d'un haut blanc échancré et d'une ceinture capucine. Le regard de ces trois hommes déraille. Qu'est-ce qui va se jouer dans cette scène doublement inaugurale ? Et est-ce que c'est par elle que vous avez vraiment commencé ce récit, Juliette Cahen ?
Oui, j'ai commencé, en fait, je suis complètement amnésique de mon enfance, parce que, bon, justement, je préfère probablement la laisser derrière moi. Il y a quelques scènes comme ça qui surnagent dans ce brouillard un peu d'amnésie. Et donc, ce sont ces scènes-là que j'ai utilisées pour tout le début du livre. Et je les écris vraiment telles que je les vois. Enfin, c'est encore très. Elles m'ont vraiment. Elles sont totalement gravées dans ma tête. Donc, cette scène-là, en effet, avec le. C'est l'époque Lolita. Et puis, il y a ce moment à la fin de la soirée où, donc, il y a un des copains de mon père. Ils ont beaucoup bu. Ils sont quatre. Ils ont beaucoup bu. Et il y en a un qui m'attire sur ses genoux et puis qui se prend pour Humbert Humbert, le héros de Nabokov, et qui me demande si je voudrais pas partir avec lui quelque part. Et moi, j'ai 12 ans ou 12 ans et demi, enfin bon, et je comprends absolument rien parce que je suis pas du tout Lolita. Donc je lui réponds quelque chose de très prosaïque et cet homme est très déçu. Voilà, il me laisse retomber sur la banquette à côté de lui et on est tous les deux à la fois déçus et soulagés, je crois.
Juliette, pour quelle raison vous a-t-on donné ce nom ? Parce que dans le livre, il y a une camarade de classe qui vous demande pourquoi on vous a appelée Juliette. C'est pour Sade ou pour Shakespeare ?
Ah ben, j'en sais rien, justement.
Vous n'avez jamais demandé ?
Non. J'ai demandé à ma mère, mais elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. Et à mon père, non, je ne l'aurais jamais demandé. Bon, ça peut être Sade, parce que quand même, c'était un des livres de chevet de mon père. Et ça peut aussi être Shakespeare, mais malheureusement, je penserais plutôt pour Sade.
On vous a demandé, comme à tous nos invités, de nous apporter un son. Et voici ce que vous avez choisi.
I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came.
Identification de ce son est la raison pour laquelle vous avez choisi Juliette Cahen.
Alors, c'est la complainte du partisan. C'est un chant qui nous fait voyager parce qu'elle ça a été composé en 1943 à Londres par deux résistants et chanté un peu à cette période-là. Puis là, c'est Leonard Cohen qui le chante magnifiquement. Moi, même quand je l'ai pas, enfin, ça me donne toujours un peu le frisson de la rentendre. Je trouve que elle est interprétée extraordinairement par lui là en 69, et donc ça accompagne aussi pour moi toute cette période des années 68, 70. Voilà. Et puis je trouve que ça va aussi pas mal en fait avec ce qui s'est passé il y a deux semaines, quoi. C'est-à-dire une idée, un esprit de résistance, de se réveiller de la part de tous les gens qui ont marché, mais probablement aussi de la part de plein de gens qui sont peut-être pas allés marcher dans les rues le dimanche 11, mais qui pensent quand même peut-être chacun dans leur coin qu'il faut se réveiller.
Si je mélange tout ça, ça va donner ça.
Ces ouvriers qui sortaient de 8 heures de boulot.
Avec la banane.
Bien écrasé.
Et on continue toujours d'ailleurs.
Merci à nos invités. Corinne Maziero, Discount est sorti en salle aujourd'hui. Juliette Kahn, Une fille, apparue aux éditions de l'Olivier. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ? Demain, une émission bande dessinée rétrospective John Ford avec le scénariste Fabien Nury et le directeur de la programmation de la Cinémathèque française à Paris, Jean-François Roger. La désannonce Hippolyte, c'était avec la banane.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, journal de la culture Zoé Sfès, chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Élise Le et Mathias Arignon, à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.